Donc l'enseignement se porte sur la miséricorde. Je ne sais pas si vous savez que le mot miséricorde en hébreu signifie le cœur profond, les entrailles qui frémissent devant la peine, la souffrance. Quel père ou mère n'a pas ressenti cela en sachant que son enfant est malade ou perdu? La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre, et particulièrement de Dieu pour les hommes. Êtes-vous sûr que Dieu, quand vous souffrez, souffre avec vous? Il vit tout ce que vous vivez, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Il est d'autant plus bouleversé par nos malheurs, nos épreuves, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. Dans un grand mouvement d'amour, pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide concrètement dans notre vie, nous témoigne de sa miséricorde, nous pardonne nos manquements quand nous retournons vers lui. Il nous aide dans notre faiblesse, parce que c'est lui notre force. Il nous envoie son Fils bien-aimé. Le mot latin « miséricorde » se traduit par « misericordia ». Il signifie littéralement « corps », c'est « avoir cœur » et « misérie », c'est « nos misères ». Donc, le cœur et les misères vont toujours ensemble. Et nos misères et nos souffrances sont, je dis, c'est comme un aimant plus fort de la miséricorde de Dieu qui vient à nous. On a vraiment un Dieu formidable. Donc, miséricordia, c'est avoir un cœur qui bat pour les pauvres que nous sommes. Saint Augustin définissait la miséricorde comme le cœur compatissant pour la misère d'autrui et les moyens pour essayer d'y subvenir. Alors, une référence biblique, je pense qu'il est bon de connaître, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que dit ce verset ? Dieu révèle qu'il est riche en miséricorde. Donc, quand on a particulièrement quelque chose à vivre de difficile, une maladie, une épreuve ou autre, nourrissez-vous et faites descendre dans votre cœur ces quelques mots « Dieu riche en miséricorde ». Il met toujours l'amour en acte pour arrêter le mal. Dès le début de l'Église primitive, le message biblique de l'infinie miséricorde de Dieu a eu un retentissement extraordinaire, comme on peut le deviner. Le contraire aurait été surprenant, bien sûr. Par exemple, saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, qualifie déjà la miséricorde d'attribut particulier de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, certainement le plus grand théologien de la tradition occidentale, a démontré de façon convaincante que Dieu est amour et que sa miséricorde agit dès le début de la création. Sœur Faustine nous a dit « La miséricorde est l'attribut fondamental de Dieu ». En 2015, dans sa bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde « Misericordia Virtus », le pape François indiquait que « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Comme c'est beau. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père, il est en toi. Alors le pape François continue, le mystère de la foi chrétienne est là tout entier, dans cette phrase. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu le Père, riche en miséricorde. Après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Exode chapitre 34, verset 6. Et ce Dieu n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments, à toute époque. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Sœur Faustine, dans son petit journal, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore lu, donc c'est au paragraphe 1743, donc en parlant bien sûr de Dieu, « Tu nous admets à ton bonheur éternel ». Et parfois on dit des mots assez vite, mais c'est important de s'arrêter et de le faire descendre dans notre cœur. « Tu nous admets à ton bonheur éternel et tu nous fais participer à ta vie intérieure. Et tu le fais uniquement à cause de ta miséricorde. Tu nous combles ainsi de ta grâce, uniquement parce que tu es bon et Dieu amour. Nous n'étions pas du tout nécessaires à ton bonheur. Le Seigneur n'avait pas besoin de nous. Seigneur, mais tu veux partager ton propre bonheur avec nous. » Au paragraphe 699, « Ma miséricorde est si grande, pendant que toute l'éternité, aucun esprit humain ni angélique ne saurait l'approfondir. » Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais aux limites de la miséricorde de Dieu, tellement elle est grande, même pendant toute l'éternité. Donc c'est dommage de s'en passer. Et saint Jean-Paul II, « Ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, c'est véritablement son nom. » Alors, qu'est-il arrivé à l'homme pour lequel Dieu a un amour originel, inconditionnel, on peut dire entre guillemets un amour fou, pour cet être créé à son image et à sa ressemblance? Genèse 1, verset 31, « En créant l'homme, Dieu vit que cela était très bon. » Mais voilà, l'homme a été séduit par le malin, le serpent dans la Genèse. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a délaissé la parole de Dieu pour écouter le père du mensonge. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'il a voulu se faire Dieu par lui-même. Il a voulu prendre par lui-même ce que Dieu offrait. Ainsi, l'humanité a été marquée par le péché originel. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans sa grande miséricorde, est-ce qu'il va abandonner l'homme? Non, il n'a pas laissé l'homme à sa perte. En Sagesse, chapitre 1, verset 13, « Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. » Sagesse, chapitre 2, verset 23-24, « Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. » C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. J'espère que c'est clair pour vous que ce n'est pas Dieu qui a créé la mort, la souffrance. C'est le résultat d'avoir contracté, d'avoir écouté le malin. Combien on entend dans ce monde de dire « mais si Dieu existait, il n'y aurait pas cette souffrance ». Soyons vraiment des chrétiens qui réagissons à ces critiques de la parole de Dieu et ces personnes qui n'ont rien compris. Alors, dès la chute de l'homme, Dieu n'a de cesse de rechercher l'homme pour faire alliance, une nouvelle alliance avec lui. Et c'est l'extraordinaire aventure du salut que nous relate la Bible. On pourrait dire que c'est un journal intime d'un peuple dans ses relations houleuses et merveilleuses avec son Dieu. Et à un moment donné, l'heure arrive où Dieu empoigne l'humanité pour célébrer ses noces éternelles par le oui de la nouvelle Ève, la Vierge Marie. Ainsi le Verbe se fait chair. À la désobéissance du premier Adam, le nouvel Adam, Jésus, répondra par une obéissance amoureuse. Et ce, jusqu'au bout. Jean chapitre 13, verset 1, « Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Romains, chapitre 5, verset 14. Le salut, c'est donc un don gratuit de la part de Dieu pour une intimité filiale avec le Père en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint. Et cela nous est donné au baptême. On devrait régulièrement revenir à ce qu'on a reçu à notre baptême, parce que nous avons tout reçu. Après, c'est à nous de l'utiliser. Ainsi, après des millénaires d'errance, l'être humain retrouve dans le Christ l'accès au Père des miséricordes et peut devenir, écoutez bien, entre guillemets, Dieu, non pas par ses propres forces, mais par l'accueil humble et confiant de la grâce sanctifiante, perdue après le péché originel, mais restituée par notre baptême. Ce retour filial de l'humanité au Père est la révolution de la nouvelle alliance qui est scellée dans le sang de Jésus, donc indestructible. Toujours sœur Faustine, au paragraphe 1485, Dieu dit « Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. » Arrêtons-nous sur quelques mots. « Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. » Qui a pris la mesure de ma bonté? Dieu dit « Pour toi. » Je suis descendue du ciel sur la terre. Pour toi. Je me suis laissée clouer à la croix. Pour toi, j'ai permis que mon cœur soit ouvert d'un coup de lance et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Et cette source est intarissable. Clouée à la croix, cœur ouvert d'une lance, voici seulement deux citations de la souffrance extrême de Jésus pour sauver l'humanité, pour me sauver personnellement. Qui ne serait pas ému? Qui garderait son cœur de pierre par un si grand amour qui fait que Dieu se fait homme? Et toujours par amour, il ne s'arrête pas là. Il prend sur lui toutes nos souffrances, tous nos péchés, tout de l'humanité, pour la sauver, pour la réconcilier avec Dieu son Père, pour ouvrir de nouveau la porte du ciel par sa croix. Oui, Jésus s'est offert en sacrifice. Ne devons-nous pas participer à cette œuvre de rédemption? Nous qui sommes un autre Christ par notre baptême, un membre de son corps mystique, puisque lui est la tête. Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie à la Coque, lors de sa troisième grande apparition, en juin 75, pendant l'octave de la fête du Saint-Sacrement, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. »